Le même jour, Élisabeth se hâta de répandre, non seulement à Londres, mais encore par toute l'Angleterre, le bruit du nouveau péril auquel elle venait d'échapper, de sorte que, lorsque 2 jours après le départ des envoyés français, les ambassadeurs d'Écosse, qui, comme on le voit, n'avaient pas fait grande diligence, arrivèrent, la reine leur répondit que leur demande tombait mal, dans un moment où elle venait d'acquérir la preuve que tant que Marie Stuart existerait, sa vie à elle, Élisabeth, était en danger. À ces paroles, Robert Melville voulut répondre, mais Élisabeth s'emporta, disant que c'était lui, Melville, qui avait donné au roi d'Écosse le mauvais conseil de s'employer pour sa mère, et que si elle avait un conseiller tel que lui, elle lui ferait trancher la tête. Ce à quoi Melville répondit qu'au risque de sa vie, il n'épargnerait jamais un bon conseil à son maître, et que celui-ci, au contraire, mériterait d'avoir la tête tranchée, qui donnerait au fils le conseil de laisser mourir sa mère. Sur cette réponse, Élisabeth leur ordonna de se retirer, leur disant qu'elle leur ferait savoir sa réponse. 3 ou 4 jours s'écoulèrent, et comme ils n'entendaient parler de rien, ils demandèrent de nouveau une audience de congé pour savoir la dernière résolution de celle vers laquelle ils étaient envoyés. La reine alors se décida à la leur accorder, et tout se passa comme avec M. de Bellièvre, en récrimination et en plainte. Enfin, Élisabeth leur demanda quelle sûreté il lui donnerait pour sa vie dans le cas où elle consentirait à faire grâce à la reine d'Écosse. Les envoyés répondirent qu'ils étaient autorisés à s'engager, au nom du roi d'Écosse leur maître et de tous les seigneurs de son royaume, à ce que Marie Stuart renoncerait, en faveur de son fils, à tous ses droits sur la couronne d'Angleterre, et qu'elle donnerait pour caution de cet engagement le roi de France et tous les princes et seigneurs, ses parents et amis. À cette réponse, la reine, oubliant sa présence d'esprit ordinaire, s'écria « Que dites-vous là, Melville? Ce serait armer mon ennemi de 2 droits, tandis qu'il n'en a qu'un. Votre Majesté regarde donc le roi, mon maître, comme son ennemi ?» répondit Melville. « Il se croyait plus heureux, madame, et pensait être votre allié. » « Non, non, dit Élisabeth en rougissant, c'est une manière de parler, et si vous trouvez un moyen de tout concilier, messieurs, pour vous prouver, au contraire, que je tiens le roi Jacques VI pour mon bon et fidèle allié, je suis toute prête à incliner à la clémence. Cherchez donc de votre côté, ajouta-t-elle, tandis que moi je chercherai du mien. » À ces mots, elle sortit de la chambre et les ambassadeurs se retirèrent avec la lueur d'espérance qu'elle leur avait laissé entrevoir. Le même soir, un gentilhomme de la cour vint trouver M. Gray, chef de l'ambassade, comme pour lui faire une visite de convenance, et tout en causant, il lui dit qu'il était bien difficile de concilier la sûreté de la reine Élisabeth avec la vie de sa prisonnière, que du reste, si grâce était faite à la reine d'Écosse, et qu'elle ou son fils arrivasse jamais au trône d'Angleterre, il n'y avait plus aucune sûreté pour les seigneurs commissaires qui avaient voté sa mort, qu'il n'y avait donc qu'un moyen de tout concilier, c'est que le roi d'Écosse renonça lui-même à ses prétentions au royaume d'Angleterre, qu'autrement il n'y avait pas, selon lui, de sûreté pour Élisabeth à sauver la vie de la reine d'Écosse. M. Gray, le regardant alors fixement, lui demanda si c'était sa souveraine qu'il avait chargée de lui venir tenir ce langage. Ce que le gentilhomme dénia, disant que tout cela était de son chef et par forme d'avis. Élisabeth reçut une dernière fois les envoyés d'Écosse et leur dit alors qu'après avoir bien réfléchi, elle n'avait trouvé aucun moyen de sauver la vie de la reine d'Écosse en assurant la sienne, que par conséquent, elle ne pouvait la leur accorder. À cette déclaration, M. Gray répondit que puisqu'il en était ainsi, il avait dans ce cas ordre de la part de son maître de lui dire qu'il protestait au nom du roi Jacques que tout ce qui avait été fait contre sa mère était nul, attendu que la reine Élisabeth n'avait aucun droit sur une reine comme elle et qu'il lui était égal en rang et en essence. Qu'en conséquence, il déclarait qu'aussitôt leur retour, et lorsque leur maître saurait de quelle manière avait tourné leur mission, il assemblerait ses états et enverrait des messagers à tous les princes chrétiens pour aviser avec eux à ce qu'ils pourraient faire pour venger celle qu'ils n'avaient pu sauver. Alors Élisabeth s'emporta de nouveau, disant qu'il n'avait certes pas reçu de leur roi mission de lui tenir un pareil langage. Mais eux s'offrirent alors de donner cette protestation par écrit et signée d'eux. Ce à quoi Élisabeth répondit qu'elle enverrait un ambassadeur qui arrangerait tout cela avec son bon ami et allié le roi d'Écosse. mais les envoyés dirent alors que leur maître n'entendrait personne avant qu'ils ne fussent revenus. Alors Élisabeth les pria de ne point s'en aller incontinent, attendu qu'elle n'avait pas, sur cette affaire, pris encore son dernier parti. Le soir de cette audience, Lord Hindley étant venu voir M. Gray et ayant paru remarquer de beaux pistolets qui venaient d'Italie, M. Gray, aussitôt qu'il fut parti, chargea le cousin de ce seigneur de les lui porter de sa part comme un don. Tout joyeux de cette agréable commission, le jeune homme voulut l'accomplir le même soir et se rendit au palais de la reine où demeurait son parent pour lui remettre le cadeau qu'il était chargé de lui faire. Mais à peine avait-il traversé quelques appartements qu'il fut arrêté, fouillé et qu'on trouva sur lui les armes dont il était porteur. Quoiqu'elles ne fussent pas chargées, on l'arrêta aussitôt, seulement on ne le conduisit point à la tour et on se contenta de lui donner sa chambre pour prison. Le lendemain, le bruit se répandit que les ambassadeurs d'Écosse avaient, à leur tour, voulu assassiner la reine et que des pistolets donnés par M. Gray lui-même avaient été trouvés sur le meurtrier. C'était trop de mauvaise foi pour que les ambassadeurs n'ouvrissent point les yeux. Convaincus, enfin, qu'ils ne pouvaient rien pour la pauvre Marie Stuart, ils l'abandonnèrent à son sort et partirent le lendemain pour l'Écosse. À peine furent-ils partis qu'Élisabeth envoya son secrétaire Davison à Sir Amyas Paulet. Il était chargé de le sonder de nouveau à l'égard de la prisonnière. Effrayée malgré elle d'une exécution publique, la reine en était revenue à ses premières idées d'empoisonnement ou d'assassinat. Mais Sir Amyas Paulet déclara qu'il ne laisserait entrer personne près de Marie que le bourreau, encore faudrait-il qu'il fût porteur d'un warrant parfaitement en règle. Davison rapporta cette réponse à Élisabeth, qui, en l'écoutant, frappa plusieurs fois du pied et, lorsqu'il eut fini, incapable de se contenir, s'écria « Par la mordieu, voilà un scrupule drôle qui fait sonner sans cesse à sa fidélité et n'en sait pas donner une preuve !» Alors il fallut bien qu'Élisabeth se décida. Elle demanda le warrant à Davison, qui le lui présenta, et, oubliant qu'elle était fille d'une reine qui était morte sur l'échafaud, elle le signa sans laisser paraître aucune émotion. Puis, y ayant fait apposer le grand sceau d'Angleterre, « Allez, dit-elle en riant, annoncez à Washington que tout est fini pour la reine Marie. Mais dites-lui cela avec des ménagements, car comme il est malade, j'aurais peur qu'il n'en mourût de saisissement. » La plaisanterie était d'autant plus atroce que Walsingham était connu pour l'ennemi le plus acharné de la reine d'Écosse. Vers le soir du même jour, qui était le samedi 14, M. Beale, beau-frère de Walsingham, fut mandé au palais. La reine lui remit la sentence de mort et avec elle un commandement adressé aux comtes de Shrewsbury, de Kent, de Rossland et aux autres seigneurs des environs de Fotheringay d'assister à son exécution. Beale prit avec lui le bourreau de Londres qu'Élisabeth avait fait habiller tout en velours noir pour cette grande circonstance et partit 2 heures après avoir reçu son mandat. Cependant, depuis ces 2 mois, la reine Marie connaissait l'arrêt des commissaires. Le jour même où il avait été rendu, elle en avait appris la nouvelle par son aumônier, à qui on avait permis de la voir pour cette seule fois. Marie Stuart avait profité de cette visite pour lui remettre 3 lettres qu'elle écrivit à l'instant même, l'une au pape Sixte V, l'autre à Dom Bernard Mendos, la troisième au duc de Guise. Voici cette dernière lettre. 4 décembre 1586. Mon bon cousin, celui que j'ai de plus cher au monde, je vous dis adieu, étant prête par un injuste jugement d'être mise à mort et à mortel que personne de notre race, grâce à Dieu, ni jamais reine et encore moins une de ma qualité, n'a jamais souffert. Mais mon bon cousin, louez le Seigneur, car j'étais inutile en ce monde à la cause de Dieu et de son Église, prisonnière comme je l'étais. Tandis qu'au contraire, j'espère que ma mort témoignera de ma constance en la foi, de ma disposition à souffrir pour le maintien et la restauration de l'Église catholique en cette île infortunée. Et bien que jamais bourreau n'ait mis la main en notre sang, n'en ayez honte, mon ami, car le jugement des hérétiques, qui n'ont nul droit sur moi, règne libre et profitable devant Dieu aux enfants de son Église. Si j'adhérais, au reste, à ce qu'il me propose, je ne souffrirai pas ce coup. Tous ceux de notre maison ont été persécutés par cette secte, témoin votre bon père, par l'intercession duquel j'espère être reçu à merci par le juste juge. Je vous recommande donc, mes pauvres serviteurs, la décharge de mes dettes et de faire fonder quelque oubli annuel pour mon âme, non à vos dépens, mais faire la sollicitation et ordonnance, comme vous en serez requis lorsque vous entendrez mon intention par mes pauvres et dévoués serviteurs qui vont être témoins de ma dernière tragédie. Dieu veuille vous faire prospérer, vous, votre femme, enfants, frères et cousins, et surtout notre chef, mon bon frère et cousin, et tous les siens. La bénédiction de Dieu est celle que je donnerai à mes enfants, puisse être sur les vôtres, que je ne recommande pas moins à Dieu que mon propre fils, si malfortuné et abusé qu'il soit. Vous recevrez des bagues de moi qui vous rappelleront de faire prier Dieu pour l'âme de votre pauvre cousine, privée de toute aide et de tout conseil, excepté de celui du Seigneur, qui me donne force et courage de résister seul à tant de loups hurlant après moi. À Dieu en soit la gloire. Croyez en particulier à ce qui vous sera dit par une personne qui vous donnera une bague de rubis de ma part, car je prends sur ma conscience qu'il vous sera dit la vérité de ce que je l'ai chargé, et spécialement en ce qui touche mes pauvres serviteurs et la part d'aucun. Je vous recommande cette personne pour sa simple sincérité et son honnêteté, afin qu'elle puisse être placée en quelque bon lieu. Je l'ai choisie comme la moins partiale et comme celle qui, le plus simplement, vous rapportera mes commandements. Qu'on ignore, je vous prie, qu'elle ne vous ait rien dit en particulier, car l'envie lui pourrait nuire. J'ai beaucoup souffert depuis 2 ans et plus, et ne vous l'ai plus faire savoir pour cause importante. Dieu soit loué de tout et vous donne la grâce de persévérer au service de son Église tant que vous vivrez, et jamais ne puisse cet honneur sortir de notre race, que tant hommes que femmes soyons prompts à répandre notre sang pour maintenir la querelle de la foi, tout autre respect mondain mis à part. Et quant à moi, je m'estime né du côté paternel et maternel pour offrir mon sang en icelle, et je n'ai intention de dégénérer. Jésus-Christ, crucifié pour nous, et tous les saints martyrs nous rendent par leur intercession dignes de l'offrande volontaire que nous faisons de nos corps à sa gloire. De Forstringer, ce jeudi 24 novembre. L'on m'avait, pensant me dégrader, faire abattre mon dé, et depuis, mon gardien m'est venu offrir d'écrire à la reine, disant n'avoir fait cet acte par son commandement, mais par l'avis de quelques-uns du conseil. Je leur ai montré, au lieu de mes armes, au D-Day, la croix de notre Seigneur. Vous entendrez tout ce discours. Ils ont été plus doux depuis. Votre affectionnée cousine et parfaite amie, Marie, reine d'Écosse, douairière de France. À compter de ce jour où elle avait appris la sentence rendue par ses commissaires, Marie Stuart ne conserva plus aucune espérance, car comme elle savait que pour la sauver, il lui faudrait la grâce d'Élisabeth, elle se regarda dès lors comme perdue et ne s'occupa plus que de se préparer à bien mourir. En effet, comme il lui arrivait parfois, par le froid et l'humidité qu'elle avait éprouvés dans ses prisons, de devenir percluse pendant un certain temps de tous ses membres, il lui prit cette crainte d'être ainsi au moment où on viendrait la chercher, ce qui ferait qu'elle ne pourrait marcher résolument à l'échafaud comme elle comptait le faire. Elle fit donc venir, le samedi 14 février, son médecin bourgoin et lui demanda, atteinte, disait-elle, par un pressentiment que sa mort devait être prochaine, ce qu'il fallait faire pour prévenir le retour des douleurs qui la paralysaient. Celui-ci répondit qu'il serait bon pour elle de se purger avec des herbes fraîches. « Allez donc, dit la reine, et demandez de ma part à sœur Amias Paulette la permission d'en chercher dans la campagne. » Bourgoin descendit auprès de sœur Amias, qui, souffrant lui-même d'une sciatique, devait comprendre mieux que personne l'urgence des remèdes que demandait la reine. Cependant, cette requête, toute simple qu'elle fût, souffrit de grandes difficultés. Sœur Amias répondit qu'il ne pouvait rien faire sans en référer à son compagnon Drerey, mais qu'on pouvait apporter de l'encre et du papier, et que lui, maître Bourgoin, donnerait alors une liste des plantes qu'il fallait, et qu'on tâcherait alors de se les procurer. Bourgoin répondit qu'il ne savait pas assez bien l'anglais, et que les apothicaires du village ne savaient pas assez bien le latin, pour qu'il risquât la vie de la reine sur quelque erreur de lui ou des autres. Enfin, après 1000 hésitations, Paulette permit à Bourgoin de sortir, ce qu'il fit, accompagné de l'apothicaire Gorgeon, de sorte que, dès le lendemain, la reine put commencer à se médiciner. Les pressentiments de Marie Stuart ne l'avaient pas trompé. Le mardi 17 février, vers 2 heures de l'après-midi, les comtes de Kent, de Shrewsbury et Bill firent dire à la reine qu'ils désiraient lui parler. La reine répondit qu'elle était couchée et malade, mais que si, cependant, ce qu'ils avaient à lui dire était chose de conséquence, on lui donnât un peu de loisir et qu'elle se lèverait. Ils lui firent répondre que la communication qu'ils avaient à lui faire n'admettait point de retard, qu'il la priait donc de se préparer. Ce que la reine fit aussitôt, et se levant de son lit et passant une robe de chambre, elle alla s'asseoir près d'une petite table, au même endroit où elle était accoutumée de se tenir une grande partie du jour. Alors les deux comtes, accompagnés de Bill, d'Amias Paulet et d'autres jeunes Drury, entrèrent. Derrière eux venaient, attirés par une curiosité pleine d'angoisse, ses filles les plus chères et ses serviteurs les plus intimes. C'était, en femme, Mesdemoiselles René de Réaly, Gilles Mowbray, Jeanne Kennedy, Elspeth Curl, Marie Paget et Suzanne Kercady. C'était en homme Dominique Bourgoin, son médecin, Pierre Gorgeon, son apothicaire, Jacques Gervais, son chirurgien, Hannibal Stowart, son valet de chambre, Didier Sifflard, son sommelier, Jean Lauder, son panetier et Martin Huet, écuyer de sa cuisine. Alors le comte de Shrewsbury, la tête découverte, ainsi que tous ceux qui étaient là et qui demeurèrent ainsi tant qu'ils restèrent dans la chambre de la reine, commença de dire en anglais, s'adressant à Marie « Madame, la reine d'Angleterre, mon auguste maîtresse, m'a envoyé de vers vous, avec le comte de Kent et Sir Robert Beale, ici présents, pour vous faire entendre qu'après avoir honorablement procédé à l'enquête du fait dont vous êtes accusé et reconnu coupable, enquête qui a déjà été soumise à votre grâce par Lord Burkus et avoir retardé autant qu'il était en elle l'exécution du jugement, elle ne peut plus aujourd'hui résister à l'importunité de ses sujets qui la pressent, tant est grande et amoureuse leur crainte pour elle, de mettre ce jugement à exécution. À cet effet, nous sommes venus, porteurs d'une commission, et nous vous prions bien humblement, madame, qu'il vous plaise d'en entendre la lecture. » « Lisez, my lord, j'écoute, » répondit Marie Stuart avec le plus grand calme. Alors Robert Beale déploya la dite commission, qui était en parchemin, scellée du grand sceau de cire jaune, et lut ce qui suit. « Élisabeth, par la grâce de Dieu, reine d'Angleterre, France et Irlande, etc., à nos amis et féaux cousins, Georges, comte de Shrewsbury, grand maréchal d'Angleterre, Henri, comte de Kent, Henri, comte de Derby, Georges, comte de Cumberland, Henri, comte de Pembroke, salut. Vu la sentence par nous donnée et autres de notre conseil, noblesse et juge, contre la jadis reine d'Écosse, portant le nom de Marie, fille héritière de Jacques, cinquième roi d'Écosse, appelée communément reine d'Écosse et douairière de France, laquelle sentence tous les états de notre royaume, assemblés en notre dernier parlement, non seulement conclurent, mais, après mûre délibération, ratifièrent pour être juste et raisonnable. Vu pareillement l'instante prière et requête de nos sujets, nous sollicitant et pressant de procéder à la publication d'icelle et la passer en exécution à l'encontre de sa personne, selon qu'il la juge aussi dûment méritée, ajoutant en cet endroit que la détention d'Icelle était et serait journellement un certain et évident danger, non pas seulement à notre vie, mais aussi à eux-mêmes et à leur postérité, et à l'état public de ce royaume, tant à cause de l'Évangile et de la vraie religion du Christ que pour la paix et tranquillité de cet état, quoiqu'aux temps et délais publics, ladite sentence par notre proclamation, et encore que, jusqu'à cette heure, nous nous soyons abstenus d'octroyer commission pour l'exécuter, toutefois, pour l'ample satisfaction des dites requêtes faites par les États de notre Parlement, par lequel, journellement, nous entendons que tous nos amis et sujets, tant de la noblesse, conseillent qu'aucun des plus sages, grands et dévots, voire jusque à ceux d'inférieures conditions, avec toute humilité et affection pour le soin qu'ils ont de notre vie, et conséquemment, pour la crainte qu'ils ont de la ruine du présent, divin et heureux état du royaume, si nous épargnions la finale exécution, consentante et désirant la dite exécution, bien que les générales aient continuelles requêtes, prières, conseils et avis, fussent en telle chose contraires à notre naturelle inclination, toutefois étant convaincus de l'urgent poids de leurs continuelles intercessions, tendantes à la sûreté de notre personne, mais aussi du public, et particulier état de notre royaume, nous avons enfin consenti et souffert que justice prît lieu, et pour l'exécution d'icelle, attendu la singulière confiance que nous avons de votre fidélité et loyauté ensemble pour l'amour et affection que particulièrement vous avez en notre endroit, à la sauvegarde de notre personne et de notre patrie, de laquelle vous êtes très nobles et principaux membres, nous mandons, et pour décharge d'icelle, nous vous enjoignons qu'à la présente vue, vous ayez à vous transporter au château de Fotheringay, là où la jadis reine d'Écosse est, en la garde de notre ami et féal serviteur et conseiller, le seigneur Amias Paulette, et là, prendre en votre charge et faire que par votre commandement, l'exécution soit faite sur sa personne, en la présence de vous-même et du dit Amias Paulette, et de tous autres officiers de justice que vous commanderez être là. Attendant, avons pour cet effet et hissé l'exécution, faite en telle manière et forme, et en tel temps et place et par telle personne, que vous, 5, 4, 3 ou 2, trouverez expédient par votre discrétion, nonobstant toute loi, statuts et ordonnances quelconques, contraires à ces présentes, scellées de notre grand sceau d'Angleterre, qui vous serviront à chacun de vous et à tous ceux qui seront présents ou feront par votre commandement aucune chose appartenant à l'exécution sudite, pleine et suffisante décharge à tout jamais. Fait et donné en notre maison de Greenwich le premier jour de février, 10 février nouveau style, l'année 29e de notre règne. Marie écouta cette lecture avec le plus grand calme et la plus grande dignité, puis, lorsqu'elle fut achevée, faisant le signe de croix, « Sois bienvenue, dit-elle, toute nouvelle qui vient au nom de Dieu. Merci, Seigneur, de ce que vous daignez mettre un terme à tous les maux que vous m'avez vus souffrir depuis 19 ans et plus. » « Madame, dit le comte de Kent, n'ayez point contre nous de mauvais vouloir à cause de votre mort. Elle était nécessaire à la tranquillité de l'État et au progrès du nouveau culte. » Ainsi, s'écria Marie avec joie, ainsi j'aurai le bonheur de mourir pour la religion de mes pères. Ainsi Dieu daigne m'accorder la gloire du martyr. Merci, mon Dieu, ajouta-t-elle en joignant les mains, avec moins d'exaltation mais plus de pitié. Merci de ce que vous daignez me faire faire une telle fin dont je n'étais pas digne. Cela, ô mon Dieu, est bien une preuve que vous m'aimez et une assurance que vous me recevrez au nombre de vos serviteurs, car, quoique ce jugement m'ait été signifié, j'avais peur, d'après la façon dont on procède envers moi depuis 19 ans, de n'être pas encore aussi près que je le suis d'une si heureuse fin, pouvant penser que votre reine n'oserait porter la main sur moi, qui, par la grâce de Dieu, sureine comme elle, fille de roi comme elle, sacrée comme elle, sa proche parente, petite fille du roi Henri VII, et qui ait eu cet honneur d'être reine de France, dont je suis encore douairière. Et cette crainte devait être d'autant plus grande, ajouta-t-elle, en étendant la main sur un nouveau testament qui était près d'elle sur la petite table, que, je le jure sur ce livre saint, je n'ai jamais poursuivi, consenti, ni même désiré la mort de ma sœur, la reine d'Angleterre. Madame, répondit le comte de Kent en faisant un pas vers elle et en indiquant du doigt le nouveau testament, ce livre sur lequel vous avez juré n'est point vrai, puisqu'il est la version papiste. En conséquence, votre serment ne peut pas être considéré comme plus véritable que le livre sur lequel il a été fait. « My lord, répondit la reine, ce que vous dites là est possible pour vous, mais non pas pour moi, qui sais bien que ce livre est la vraie et fidèle version de la parole du Seigneur, version faite par un docteur très sage, très homme de bien et approuvé par l'Église. » Madame, reprit le comte de Kent, votre grâce s'est arrêtée à ce qu'on lui a appris et enseigné dans sa jeunesse, sans vous être jamais enquise de ce qui était bon ou mauvais. Il n'est donc point étonnant que vous soyez demeuré en votre erreur, faute d'avoir entendu aucune personne qui ait pu vous faire connaître la vérité. C'est pourquoi, comme votre grâce n'a plus que quelques heures à rester en ce monde, et par conséquent n'a point de temps à perdre, avec sa permission, nous ferons venir le doyen de Petersburg, l'homme le plus savant qui existe en matière de religion, lequel, par sa parole, vous préparera à votre salut que vous compromettez, à notre grande douleur et à celle de notre auguste reine, par toutes les folies papistiques, abominations et sottises d'enfants qui écartent les catholiques de la sainte parole de Dieu et de la connaissance de la vérité.
« Vous êtes dans l'erreur, my lord, » répondit doucement la reine, « si vous avez cru que j'ai grandi insouciante dans la foi de mes pères et sans m'occuper sérieusement d'une chose aussi importante que la religion. J'ai au contraire passé ma vie avec des hommes doctes et savants qui m'ont appris sur ce point ce qu'il fallait apprendre, et je me suis nourri de la lecture de leurs œuvres depuis que les moyens d'entendre leurs paroles m'ont été ôtés. Or, n'ayant jamais douté pendant ma vie, ce n'est point à l'heure de ma mort que le doute me viendra. Et voilà monsieur le comte de Shrewsbury, ici présent, qui vous dira que, lors de mon arrivée en Angleterre, j'ai pendant tout un carême, ce dont je me repens, entendu vos plus savants docteurs sans que leurs arguments aient fait aucune impression sur mon esprit. Ce serait donc inutilement, my lord, ajouta-t-elle en souriant, que vous appelleriez près d'une endurcie comme moi le doyen de Petersburg, si savant qu'il soit. La seule chose que je vous demande en échange, my lord, et dont je vous serai reconnaissante au-delà de toute expression, c'est que vous m'envoyez mon aumônier, que vous tenez renfermé dans cette maison, pour me consoler et me préparer à la mort, ou à son défaut un autre prêtre, quel qu'il soit, fût-ce un pauvre curé d'un pauvre village, n'étant pas plus difficile que Dieu, et ne demandant point qu'il ait la science, pourvu qu'il ait la foi.
C'est avec regret, madame, reprit le comte de Kent, que je me vois forcé de refuser cette demande à votre grâce, mais ce serait contre notre religion et notre conscience, et nous serions coupables de le faire. C'est pourquoi nous vous offrons de nouveau le vénérable doyen de Petersburg, certain que votre grâce trouvera plus de consolation et de contentement en lui qu'en aucun évêque, prêtre ou vicaire de la religion catholique.
« Merci, my lord, dit encore la reine, mais je n'ai que faire de lui. Et comme j'ai la conscience pure du crime pour lequel je vais mourir, avec l'aide de Dieu, le martyre me tiendra lieu de confession. Et maintenant, je vous rappellerai, my lord, ce que vous m'avez dit vous-même, que j'avais peu d'heures à vivre. » Or, ces peu d'heures, pour m'être profitables, veulent être passées dans les prières et les méditations, et non dans de vaines disputes. À ces mots, elle se leva, et saluant les comtes, Sir Robert Beale, Amyas et Drury, elle indiqua par un geste plein de dignité qu'elle désirait être seule et tranquille. Puis, comme il s'apprêtait à sortir, « À propos, my lord, dit-elle, pour quelle heure dois-je me préparer à mourir ?»«
Pour demain, vers les 8 heures, madame. » répondit en bégayant le comte de Shrewsbury.
C'est bien, dit Marie, mais n'avez-vous point quelque réponse à me faire dire de la part de ma sœur Élisabeth relativement à une lettre que je lui ai écrite il y a environ un mois?
Et de quoi traitait cette lettre, s'il vous plaît, madame? Demanda le comte de Kent.
De mon enterrement et de mes funérailles, my lord. J'avais demandé d'être inhumé en France, en l'église cathédrale de Reims, près de la Ferraine, ma mère.
« Cela ne peut se faire, madame, répondit le comte de Kent, mais ne vous mettez point en peine de tous ces détails. La reine, mon auguste maîtresse, y pourvoira comme il convient. Votre grâce a-t-elle autre chose à nous demander ?»«
Je voudrais encore savoir, dit Marie, s'il sera permis à mes serviteurs de s'en retourner, chacun dans son pays, avec le peu que je lui pourrai donner, ce qui ne sera guère dans tous les cas, pour les longs services qu'ils m'ont faits et la longue détention qu'ils ont soufferte à cause de moi.
Nous n'avons point commission de répondre à cela, madame, dit le comte de Kent, mais nous pensons qu'on donnera ordre à ceci, comme au reste, selon votre volonté. Est-ce tout ce que votre grâce avait à nous dire?
Oui, my lord, répondit la reine en saluant une seconde fois. Et maintenant, vous pouvez vous retirer.
Un instant, my lord, au nom du ciel, un instant! S'écria le vieux médecin en quittant les rangs des serviteurs et en se jetant aux genoux des deux comtes.
« Que voulez-vous ? » demanda Lord Shrewsbury.
« Vous remontrez, my lord, répondit en pleurant le vieux bourgoin, que c'est un temps bien court que celui que vous avez accordé à la reine pour une si grande affaire que celle de la vie.
Considérez, mylord, quel rang et quel grade celle que vous avez condamnée a tenu parmi les princes de la terre, et réfléchissez s'il est bon et convenable de la traiter comme un condamné vulgaire et de médiocre état. Et si ce n'est pas pour cette noble reine, mylord, que ce soit pour nous, ses pauvres serviteurs, qui, ayant eu l'honneur de vivre si longtemps près d'elle, nous ne pouvons pas nous en séparer ainsi, si vite et sans préparation. D'ailleurs, mylord, songez-y, une femme de son état et de sa condition doit avoir quelque temps devant elle pour régler ses affaires dernières. Et que deviendra-t-il d'elle et de nous, mon Dieu, si, avant de mourir, notre maîtresse n'a point le temps de régulariser son douaire et ses comptes et de mettre de l'ordre dans ses papiers et ses titres? Elle a des services à rémunérer et des offices de pitié à faire. Il faut qu'elle néglige les uns ou les autres. Or, nous savons qu'elle ne s'occupera que de nous, et par ainsi, mylord, négligera son propre salut. Accordez-lui quelques jours de plus, mylord, et comme notre maîtresse est trop fière pour vous demander une pareille grâce, c'est moi qui vous la demande en notre nom à tous, et vous supplie de ne point refuser à de pauvres serviteurs une demande que votre auguste reine ne leur refuserait certainement pas s'ils avaient le bonheur de la pouvoir déposer à ses pieds. « Est-il donc vrai, madame, demanda Sir Richard Beale, que vous n'avez point encore fait de testament ?»«
Non, monsieur, répondit la reine. »
« En ce cas, mylord, dit Sir Robert Beale en se retournant vers les deux comtes, il serait peut-être bon de sursoir d'un jour ou deux. »«
Impossible, monsieur, répondit le comte de Shrewsbury. L'heure est fixée et nous ne pouvons rien changer, pas même une minute, à cette heure. »
« Assez, Bourgoin, assez !» dit la reine. « Relevez-vous, je vous l'ordonne !»
Bourgoin obéit, et le comte de Shrewsbury, se tournant vers Sir Amyas Paulet, qui était derrière lui,
« Seigneur Amyas, lui dit-il, nous remettons cette dame entre vos mains. Vous vous en chargerez et la tiendrez en bonne garde jusqu'à notre retour. » À ces mots, il sortit, suivi du comte de Kent, de Sir Robert Beale, d'Amyas Paulet et de Drury, et la reine resta seule avec ses serviteurs. Alors, se retournant vers ses femmes, avec un visage aussi serein que si l'événement qui venait de lui arriver était de peu d'importance,
« Eh bien, Jeanne, dit-elle en s'adressant à Kennedy, ne vous avais-je pas toujours prévenu et ne savais-je pas bien qu'ils avaient au fond du cœur l'envie de faire ce qu'ils ont fait et que je voyais bien par toute leur procédure le but où ils tendaient ? Et que je savais bien que je leur étais, dans leur fausse religion, un trop grand obstacle pour qu'ils me laissassent vivre.
Allons, continua-t-elle, maintenant que l'on hâte le souper, afin que je mette ordre à mes affaires. » Puis, voyant qu'au lieu de lui obéir, ses serviteurs pleuraient et se lamentaient,
« Mes enfants, leur dit-elle avec un sourire triste, mais sans qu'aucune larme lui vînt aux yeux, ce n'est point le moment de pleurer, bien au contraire, car si vous m'aimez, vous devez être joyeux de ce que le Seigneur, en me faisant mourir pour sa cause, m'enlève aux tortures que je souffre depuis 19 ans. Quant à moi, je le remercie de me faire mourir pour la gloire de sa religion et de son Église. Quant à moi, je le remercie de me faire mourir pour la gloire de sa religion et de son Église. Donc, que chacun prenne patience, et tandis que les hommes prépareront le souper, nous autres femmes, nous prierons Dieu. » Nous autres femmes, nous prierons Dieu. » Aussitôt, les hommes sortirent en pleurant et en sanglotant, et la reine et ses filles se mirent à genoux. Lorsqu'elles eurent dit plusieurs prières, Marie se releva, et se faisant apporter tout ce qui lui restait d'argent, elle le compta et en fit différentes parts qu'elle mit dans des bourses avec le nom de la personne à qui elles étaient destinées, écrit de sa main et qu'elle déposa avec l'argent. En ce moment, le souper étant servi, elle se mit à table avec ses femmes, comme elle avait l'habitude de le faire, les autres serviteurs se tenant debout ou allant et venant, son médecin la servant à table, comme il était accoutumé de faire depuis qu'on lui avait ôté son maître d'hôtel. Elle ne mangea ni plus ni moins que d'habitude, parlant pendant tout le souper du comte de Kent et de quelle manière il s'était trahi à l'endroit de la religion, par son insistance à vouloir donner à la reine un pasteur au lieu d'un prêtre.
« Heureusement, ajouta-t-elle en riant, qu'il eût fallu un plus habile que lui pour me faire changer. »
Pendant ce temps, Bourgoin pleurait derrière la reine, car il songeait que c'était la dernière fois qu'il la servait, et que celle qui mangeait parlait et riait ainsi,
le lendemain à la même heure, ne serait plus qu'un cadavre froid et insensible. À la fin du repas, la reine fit venir tous ses serviteurs, puis, avant que rien fût levé de la table, elle se versa une coupe de vin, elle se leva et but à leur santé, leur demandant si eux ne voulaient pas boire à son salut. Alors, elle leur fit donner à tous des verres. Tous se mirent à genoux et tous, dit la relation à laquelle nous empruntons ces détails, burent, mêlant leurs larmes au vin et demandant pardon à la reine pour les offenses qu'ils pouvaient lui avoir faites. La reine le leur accorda de grand cœur et leur demanda d'en faire autant pour elle et d'oublier ses impatiences qu'elle les pria de mettre sur le compte de sa captivité. Puis, après leur avoir fait un long discours, dans lequel elle leur expliquait leurs devoirs envers Dieu et les exhortait à persévérer dans la foi catholique, elle les invita, lorsqu'elle serait morte, à vivre ensemble en paix et en charité, oubliant toutes les petites querelles et discussions qu'ils avaient eues ensemble par le passé. Ce discours terminé, la reine se leva de table et voulut descendre dans sa garde-robe pour voir les habits et les bijoux dont elle pouvait disposer. Mais Bourgoin lui fit observer que mieux valait qu'on lui apportât tous ces différents objets dans sa chambre même, que cela aurait un double avantage, qu'elle en serait moins fatiguée d'abord, et qu'ensuite les Anglais ne les verraient pas. Cette dernière raison la détermina, et tandis que les serviteurs soupaient, elle se fit apporter dans l'antichambre d'abord toutes ses robes, en prit l'inventaire des mains de son valet de garde-robe et commença d'écrire en marge de chaque objet le nom de la personne à laquelle il était destiné. Aussitôt et à mesure, la personne à qui elle faisait le don le prenait et le mettait à part. Quant aux choses qui lui étaient trop personnelles pour être données ainsi, elle ordonna qu'elles fussent vendues afin que leur prix servît aux dépenses du voyage de ses serviteurs quand ils s'en retourneraient chacun dans son pays, sachant bien que les frais étaient grands et que nul n'avait assez d'argent pour y subvenir. Ce mémoire achevé, elle le signa de sa main et le remit, en signe de décharge, à son valet de garde-robe. Puis, cela fait, elle entra dans sa chambre où l'on avait apporté ses bagues, ses joyaux et ses meubles les plus précieux, les visita tous les uns après les autres jusqu'à ceux de moindre valeur et les distribua comme elle avait fait de ses robes. De sorte que, tant présent qu'absent, chacun eut quelque chose. Alors elle donna, en outre, et à ses plus fidèles, les bijoux qu'elle destinait au roi et à la reine de France, au roi son fils, à la reine mère, à messieurs de Guise et de Lorraine, sans oublier dans cette distribution aucun prince ni aucune princesse de ses parents. En outre, elle voulut que chacun conservât les objets qui étaient sous sa garde, donnant son linge à la demoiselle qui le soignait, ses ouvrages de soie à celle qui en avait la charge, sa vaisselle d'argent à son sommelier, et ainsi des autres. Puis, comme ils lui en demandaient des charges, « C'est inutile, leur dit-elle, vous n'en deviez compte qu'à moi, et demain, par conséquent, vous n'en devrez plus compte à personne. » Puis, comme ils lui firent observer que le roi son fils pourrait les réclamer, « C'est juste, dit-elle, et elle leur donna ce qu'ils demandaient. Cela fait, et n'ayant plus aucun espoir d'être visitée par son confesseur, elle lui écrivit cette lettre. « J'ai été tourmentée tout ce jour à cause de ma religion et sollicitée de recevoir les consolations d'un hérétique. Vous apprendrez, par Bourgoin et par les autres, que tout ce qu'on a pu me dire à ce sujet a été inutile et que j'ai fait fidèlement protestation de la foi dans laquelle je veux mourir. » J'ai demandé qu'on vous permît de recevoir ma confession et de me donner le sacrement, ce qu'on m'a cruellement refusé, aussi bien que le transport de mon corps et le pouvoir de tester librement. De sorte que je ne puis rien écrire que par leurs mains et sous le bon plaisir de leur maîtresse. Faute donc de vous voir, je vous confesse mes péchés en général, comme je l'eusse fait en particulier, vous priant au nom de Dieu de prier et de veiller cette nuit avec moi pour la satisfaction de mes péchés, et de m'envoyer votre absolution et pardon de toutes les offenses que je vous ai faites. J'essaierai de vous voir en leur présence, comme ils l'ont accordé à mon maître d'hôtel, et s'il m'est permis, devant tous et à genoux, je demanderai votre bénédiction. Envoyez-moi les meilleures prières que vous connaissiez pour cette nuit et pour demain matin, car le temps est court et je n'ai pas le loisir d'écrire. Mais soyez tranquille, je vous recommanderai comme les restes de mes serviteurs, et surtout, vos bénéfices vous seront assurés. Adieu, car je n'ai pas un plus long loisir. Faites-moi passer par écrit tout ce que vous pourrez trouver en prière et en exhortation, de meilleur pour mon salut. Je vous envoie ma dernière petite bague. » Aussitôt cette lettre écrite, la reine commença son testament et, tout d'un trait, au courant de la plume et presque sans la soulever du papier, elle écrivit deux grandes feuilles contenant plusieurs articles dans lesquels aucun n'était oublié, présent comme absent, distribuant le peu qu'elle avait avec une scrupuleuse équité et plus encore selon les besoins que selon les services. Monsieur le duc de Guise, son cousin Germain, l'archevêque de Glasgow, son ambassadeur, l'évêque de Ross, son grand aumônier, et M. du Ruisseau, son chancelier, tous quatre certes bien dignes de la charge qu'ils recevaient, le premier par son autorité, les deux évêques pour la piété et la conscience, et le dernier pour sa connaissance des affaires. Son testament achevé, elle écrivit cette lettre au roi de France. « Monsieur, mon beau-frère, étant, par la permission de Dieu et pour mes péchés, je crois, venu me jeter entre les bras de cette reine, ma cousine, où j'ai eu beaucoup d'ennuis depuis plus de 20 ans, je suis enfin, par elle et par ses états, condamné à la mort. Et ayant demandé mes papiers, ôtés par eux, pour faire mon testament, je n'en ai rien pu retirer qui me servît, pas même la permission d'écrire librement mes dernières volontés, ni congé qu'après ma mort, mon corps fut transporté, comme l'était mon bien cher désir, dans votre royaume, où j'ai eu cet honneur d'être reine, votre sœur et votre alliée. Ce jour-là, après dîner, m'a été dénoncée, sans plus de respect, ma sentence, pour être exécutée demain comme une criminelle, à 8 heures du matin. Je n'ai pas loisir de vous faire un ample récit de ce qui s'est passé, mais s'il vous plaît de croire mon médecin et mes autres miens désolés serviteurs, vous entendrez la vérité, et que, grâce à Dieu, je m'ai prise la mort, que je proteste recevoir, innocente de tout crime, quand bien même je serai leur sujet, ce que je ne fus jamais. Au reste, ma foi dans la religion catholique et mes droits à la couronne d'Angleterre sont les causes réelles de ma condamnation, et cependant, ils ne veulent point me permettre de dire que c'est pour ma religion que je meurs, car ma religion tue la leur. Et cela est si vrai qu'ils m'ont ôté mon aumônier, qui, quoique prisonnier dans le même château, ne peut venir ni me consoler, ni me donner le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, mais, au contraire, m'ont fait de grandes instances pour que je reçusse les consolations de leurs ministres qu'ils avaient amenés à ce sujet. Celui qui vous portera cette lettre et le reste de mes serviteurs, qui sont pour la plupart de vos sujets, vous témoigneront de la manière dont j'aurai accompli mon dernier acte. Maintenant, il me reste à vous supplier, comme roi très chrétien, comme mon beau-frère, comme mon ancien allié, et qui m'avait si souvent fait l'honneur de protester de votre amitié pour moi, de faire preuve de cette amitié par votre vertu et par votre charité, en me soulageant de ce dont je ne puis sans vous décharger ma conscience, c'est-à-dire de récompenser mes bons serviteurs désolés, leur laissant leur gage. Puis encore en faisant prier Dieu pour une reine qui a été nommée très chrétienne et qui meurt catholique et privée de tous ses biens. Quant à mon fils, je vous le recommande autant qu'il le méritera, car je n'en puis répondre. Mais pour mes serviteurs, je vous les recommande à main jointe. J'ai pris la hardiesse de vous envoyer 2 pierres rares pour la santé, vous la désirant parfaite et heureuse pendant une longue vie. Vous les recevrez comme de votre très affectionnée belle-sœur, mourante et vous rendant témoignage de son bon cœur envers vous. Je vous recommanderai mes serviteurs par un mémoire et vous ordonnerai, pour le bien de mon âme, au salut duquel il sera employé, qu'on me paie une partie de ce que vous me devez, s'il vous plaît, et je vous en conjure l'honneur de Jésus, lequel je prierai demain à ma mort pour que vous me laissiez de quoi fonder un obit et faire les aumônes requises. Ce mercredi, 2 heures après minuit, votre affectionnée et bonne sœur, Marie R. Et de toutes ces recommandations, testaments et lettres, la reine fit aussitôt faire des copies qu'elle signa afin que, si les unes étaient prises par les Anglais, les autres arrivassent à leur destination. Bourgoin lui fit alors observer qu'elle avait tort de se tant presser pour l'éclore et qu'il serait possible que dans 2 ou 3 heures, elle se souvînt d'avoir omis quelque chose. Mais la reine ne tint compte de cette observation, disant qu'elle était certaine de n'avoir rien oublié, et qu'eût-elle oublié quelque chose, elle n'avait plus aucun loisir à cette heure que de prier Dieu et de songer à sa conscience.
Elle enferma donc tous ses différents objets dans les tiroirs d'un meuble dont elle remit la clé à Bourgoin. Puis, s'étant fait apporter un bain de pied, où elle demeura 10 minutes à peu près, elle se coucha dans son lit, où l'on ne s'aperçut pas qu'elle dormit, mais où on la vit constamment réciter des prières ou demeurer en contemplation. Vers les 4 heures du matin, la reine, qui avait l'habitude de se faire lire, à la suite de ses prières du soir, l'histoire de quelques saints ou saintes, ne voulut pas déroger à cette habitude, et après avoir hésité entre plusieurs pour cette occasion solennelle, elle choisit le plus grand pécheur de tous, c'est-à-dire le bon larron, disant avec humilité « Si grand pécheur qu'il a été, il a encore moins péché que moi. Je veux donc le prier en souvenant ses mémoires de la passion de Jésus-Christ, qu'il ait pitié de moi à l'heure de ma mort, comme notre Seigneur a eu pitié de lui. » Puis, la lecture achevée, elle fit apporter tous ses mouchoirs et choisit le plus beau, qui était de fine batiste toute brodée d'or, pour se bander les yeux. Au point du jour, songeant qu'elle n'avait plus que 2 heures à vivre, elle se leva et commença de s'habiller. Mais avant qu'elle eût pris tous ses vêtements, Bourgoin entra dans sa chambre, et craignant que les serviteurs absents ne murmurassent contre la reine, si d'aventure ils étaient mécontents du testament, et n'accusassent ceux qui étaient présents d'avoir retiré sur leur part pour ajouter à la leur, il supplia Marie de les envoyer chercher tous et de le lire en leur présence. Ce que Marie trouva bon et accorda à l'instant. On fit alors venir tous les serviteurs, et la reine lut le testament, disant que c'était sa volonté libre, pleine et entière, écrite et signée de sa propre main, et qu'en conséquence, elle priait les assistants d'aider de tout leur pouvoir à ce qu'il fût accompli sans aucune omission ni changement. Puis, cette lecture faite, et ayant reçu la promesse de tous, elle le remit à Bourgoin, le chargeant de le faire tenir à M. de Guise, son principal exécuteur testamentaire, et en même temps ses lettres au roi et ses principaux papiers et mémoires. Puis, se faisant apporter la cassette où elle avait mis les bourses dont nous avons parlé plus haut, elle les ouvrit les unes après les autres, et voyant par le billet qu'elle y avait enfermé à qui chacune était destinée, elle les distribua de sa main, aucun de ceux qui les recevaient ne sachant leur contenu. Au reste, ces dons variaient de 20 écus à 300, aucun n'étant plus haut, mais aucun non plus n'étant plus bas. À ces sommes, elle ajouta 700 livres pour donner aux pauvres, à savoir 200 à ceux d'Angleterre et 500 à ceux de France. Puis, à chaque homme de sa suite, 2 nobles à la rose pour être distribués en aumône à son intention, et enfin 150 écus à Bourgoin pour être partagés entre tous au moment où ils se sépareraient. Et ainsi, 26 ou 27 personnes eurent des legs en argent. La reine accomplit toutes ces choses avec un grand calme et une grande sérénité, et sans qu'on remarquât aucun changement sur son visage, si bien qu'il semblait qu'elle se préparât seulement à un voyage ou à un changement de demeure. Puis elle prit de nouveau congé de ses serviteurs, les consolant et leur recommandant de vivre en paix, tout cela en achevant de s'habiller du mieux et le plus coquettement qu'elle pouvait.